IDFM Radio 98 FM.
Bienvenue sur IDFM Radio, Jacqueline Voraz avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe. Dans le cadre de notre participation au salon Effervescence, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'économie en direct sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes que vous pouvez écouter sur IDFM Radio 98.00, IDFM 98.fr, en DAB+, ou sur notre appli mobile. Excellente journée à vous tous qui ce matin êtes à notre écoute. Aujourd'hui, mardi 20 février, jusqu'à 11h, nous allons parler du salon Effervescence qui se tiendra cette année le 19 mars 2024 à Herblay. Un salon qui reçoit chaque année 250 exposants de tout horizon. Parmi eux, mes invités du jour qui, au-delà d'avoir en commun cette présence au salon Effervescence, se rejoignent aussi sur l'accès du logement. Un fil conducteur que nous allons suivre en compagnie de Marie-Christine Ogli. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour Jacqueline.
Bienvenue chez IDFM Radio. En 2020, lors de votre première venue à l'émission, en tout cas dans mon émission, nous étions promis que vous reviendriez pour parler d'Action Logement. C'est chose faite et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce cadre, puisque parmi vos nombreux titres et distinctions, vous êtes la présidente du comité régional Action Logement Île-de-France. Un acteur de référence du logement social reconnu précisément d'utilité sociale et dont nous découvrirons avec vous la vocation et les missions pour favoriser l'accès à ces logements sociaux. À vos côtés, Marie Muchowicka. Je l'ai bien dit. Bonjour Marie.
Bonjour Jacqueline, ravie d'être parmi vous aujourd'hui.
Merci, également ravie de vous accueillir sur ce plateau. Directrice territoriale Val-d'Oise Action Logement Île-de-France, vous nous expliquerez pourquoi vous renouvelez l'expérience de participer à ce salon Effervescence, mais également vous nous déclinerez un certain nombre de dispositifs qui permettent de faciliter l'accès au logement locatif et à qui ces aides sont destinées selon les différents moments de la vie. Exposante donc avec Marie-Christine au salon Effervescence. À vos côtés, Guillaume Vuittet. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Bonjour monsieur le député, pardon. Vous êtes bien installé?
Oui, tout
ça va. Bon, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Député de la deuxième circonscription du Val-d'Oise, vous êtes à la commission des affaires économiques et plus précisément l'accélération et simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement. Avec vous, nous aurons le point de vue du législateur sur ses accès au logement et des actions à mener avec des partenaires tels qu'Action Logement. Et à vos côtés, Alain Gelès. Bonjour Alain.
Bonjour.
Merci pour votre présence dans nos studios. Directeur technique AZ Énergie, filiale du groupe AZ Holding, un acteur de référence dans le secteur énergétique. Vous nous dévoilerez pourquoi il faut choisir AZ Énergie pour aller vers une consommation énergétique plus durable et plus économique. Avec nous également, car exposant au salon Effervescence. Donc, Guillaume, vous allez être obligé d'aller au salon Effervescence, puisque c'est le point commun.
Ce sera un plaisir, évidemment.
Alors, bienvenue à vous et merci à tous les quatre d'être sur IDFM Radio. Mais juste avant de vous donner la parole, j'ai un communiqué de presse à vous lire de la part d'un club service, en l'occurrence le Lions Club. puisque trois Lions Club agissent ensemble pour les jeunes mères seules et démunies. Le Verlogis à Montmorency est un centre maternel qui accueille des jeunes femmes de 14 à 25 ans, enceintes, pardon, ou avec un enfant de moins de 3 ans. Ces jeunes mères arrivent au centre non par choix, mais parce qu'elles sont seules, rejetées par leur famille ou le père du bébé. Dans tous les cas, elles n'ont même pas le minimum nécessaire. Les Lions Club d'Argenteuil, Cormeil en Parisie, Enghien et Piscot se sont associés pour élaborer et mettre à disposition des kits d'hygiène. Ainsi, une trentaine de sacs seront remis sur place le jeudi 22 février à 15h, en présence des représentants des clubs et de différentes personnalités. Monsieur Maxime Thory, maire de Montmorency, sera représenté par Monsieur Jean-Pierre Daud, adjoint au maire. Nous tenons aussi à remercier l'association Coyote Conseil pour sa participation au projet. Les Lions sont pour devise « Nous servons » et nous mettons souvent en commun nos énergies et nos compétences pour être au plus près des besoins. Et c'est un message de Madame Coquet qui est la présidente de cette association. Voilà, et tout de suite, je m'adresse à vous, Marie-Christine Ogly. Donc, nous le savons, vous êtes très investie dans de nombreuses causes et vous êtes parmi toutes vos responsabilités, donc présidente du comité régional Action Logement d'Île-de-France. Peut-être quelques mots d'introduction pour dire qui est Action Logement et puis nous rappeler sa vocation.
Merci Jacqueline. Alors depuis cette décennie, notre groupe facilite l'accès au logement pour favoriser l'emploi. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'emploi sans logement et pas de logement sans emploi. Nous sommes un acteur de référence du logement social et intermédiaire, la plus grosse foncière d'Europe avec plus de 1 million de logements. Grâce à la contribution financière versée par les entreprises, que l'on appelle la PEC, nous soutenons deux missions principales. La première, qui est de financer et construire les logements abordables et durables, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d'éco-habitat, de revitalisation des centres-villes, principalement des villes moyennes, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Nous nous sommes fixés un objectif ambitieux, qui est de construire exemplaires pour participer activement à la transition écologique. Face à la crise climatique, la réduction de l'empreinte de nos activités est urgente. Elle doit s'appuyer sur une amélioration radicale de la performance énergétique et un renouvellement de la conception des logements neufs pour une construction bas carbone, sobre et circulaire. Nous avons une forte politique de rénovation de notre parc immobilier. Tous nos logements seront en classe C dès 2030, ce qui signifie que plus de 15 000 logements ont été réhabilités en 2023, 15 037 exactement, et il y en aura tout autant en 2024.
Marie-Christine, juste peut-être une question. Donc vous dites que ça fait 7 décennies, c'est-à-dire on est à ce moment-là dans les années 1950,
oui.
C'est-à-dire après la guerre.
Oui. Et c'est l'appel de l'abbé Pierre.
C'est ça.
La création s'est faite en fait dans le Nord. Ce sont des chefs d'entreprise qui ont décidé de mutualiser des sommes pour pouvoir construire des logements à mettre à disposition de leurs salariés.
C'est ça. Et donc ils ont démarré petit, puis ça
a bien pris. L'État, dans sa grande sagesse, a décidé ou non d'ailleurs, a décidé d'en faire une contribution volontaire obligatoire.
Très bien, très bien. Oui, je trouvais que c'était important de préciser cette la genèse un petit peu de Action Logement. Et donc Action Logement qui est une autre mission.
Alors la deuxième mission, c'est aussi d'accompagner les salariés. D'ailleurs Marie est chez Action Logement Service, donc qui est l'accompagnement des salariés, alors à la fois dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Donc nous proposons des services et des aides financières qui facilitent l'accès au logement, que ce soit pour les jeunes actifs les salariés en mobilité ou les salariés pouvant rencontrer des difficultés de logement. Et nous sommes fiers d'avoir investi en Île-de-France plus de 350 millions d'euros dans la production de logements abordables, d'avoir logé 31 144 ménages et d'avoir délivré plus de 151 000 aides et services. Nous avons ainsi permis à des familles d'accéder au logement ou de s'installer dans de meilleures conditions et de se rapprocher en tout état de cause de leur lieu de travail ou de surmonter un moment difficile.
Oui, ces moments, ces difficultés qui peuvent avoir souvent des origines différentes, hein, ça peut être financière, familiale, professionnelle, dû à des problèmes de santé, c'est très...
Des divorces,
c'est très, voilà.
Et c'est particulièrement prégnant en Île-de-France.
Oui, oui, oui. Monsieur le député, vous voulez intervenir sur ce que dit Marie-Christine par rapport à ces chiffres,
parce que je pense qu'Action Logement est... Alors, je ne vais pas faire de grands secrets, je suis un suppôt inconditionnel d'Action Logement. Et vraiment, 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 et depuis de nombreuses années, parce que, et je le dis d'autant plus que je sais que c'est une structure qui est régulièrement menacée, parce que nos amis de Bercy, du ministère de la Finance, aimeraient bien mettre la main sur l'APEC, comme vous dites. Et je pense que ce serait une erreur tragique de faire cela, oui. Parce que je trouve que Action Logement, par la diversité de cette action, illustre bien ce qu'il faut faire en matière de logement. C'est-à-dire, d'une part, s'adresser à tout le monde.
Oui.
Et ça, c'est important. C'est-à-dire que il faut évidemment loger les plus démunis, mais loger aussi tous les autres. Et ensuite, parce qu'il y a une diversité de formes d'accès au logement. Non seulement il faut avoir accès à du logement social, au logement intermédiaire, ce que vous faites avec beaucoup de qualité, parce que quand vous déclenchez des programmes, ils sont en effet respectueux et des normes environnementales, mais aussi des normes d'intégration dans le tissu urbain, des normes sociales qui vont avec, mais aussi parfois il faut aider à la mobilité. Alors maintenant, je suis membre de la commission des lois plutôt, mais là j'ai fait une petite incartade et un petit détour par la commission des affaires économiques pour être rapporteur sur la loi sur les propriétés dégradées et la lutte contre l'habitat indigne.
On reviendra tout à l'heure sur des amendements
J'avais été rapporteur pour la loi Elan.
Oui.
Et donc, on voit bien, et je dirais presque avec la crise sanitaire, on voit encore davantage comment les problèmes de mobilité sont fondamentaux dans les politiques du logement. Évidemment, je suis très heureux des annonces qu'a pu faire Gabriel Attal en la matière. Mais il n'y a pas de mot magique en matière de logement. C'est une diversité d'actions qui doit s'opérer, et en particulier une action qui est liée à l'aménagement du territoire. On a aujourd'hui quelque chose qui se crée, qui est le télétravail.
Oui.
On voit bien d'ailleurs que ça réduit les besoins en bureaux. Alors j'ai une petite nuance par rapport à Gabriel Attal, c'est que je pense qu'il faut favoriser la transformation de bureaux en logement, mais surtout d'activités économiques et commerciales, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui c'est plutôt les zones commerciales qui sont très impactées par Internet, etc. Donc il y a des enjeux forts d'aménagement du territoire, de répartition des salariés, d'adaptation de ce lien indissoluble entre l'emploi et le logement, parce qu'en effet, sans emploi, c'est compliqué d'avoir son logement,
oui.
Mais il doit favoriser la mobilité, qui doit favoriser l'adaptation des familles, non seulement pour gérer les accidents de vie, vous avez raison, mais aussi de façon positive. C'est qu'il faut aussi faire en sorte que les gens ne se sentent pas empêchés d'avoir des projets de vie parce qu'il y a un problème de logement. Ça peut être un nouvel enfant, c'est pas toujours évident de pousser les murs de la maison, mais c'est vrai aussi quand on veut changer d'emploi, quand on est jeune et qu'on est en formation, on va papillonner ça et là, on va bouger. Et encore une fois, tous ces impératifs-là, je trouve qu'Action Logement y répond très fortement.
Oui.
Et si vous me laissez encore une minute pour aller plus loin, c'est que on se plaint beaucoup du déficit de construction de logements. Il y a des tas de raisons, hein, surtout en Île-de-France, une question de pénurie foncière qui est importante. Mais c'est aussi parce que on reproche parfois aux maires de ne pas construire ou de ne pas construire autant qu'ils le pourraient, mais c'est parce que les habitants ne veulent pas de nouveaux voisins souvent. Mm-hmm. Et il faut prendre en compte cette réalité. Et donc il faut réenchanter l'idée qu'il y a des gens nouveaux qui arrivent. Et en fait, moi, je vois bien que les gens sont prêts à loger leurs anciens, leurs vieux, leurs jeunes aussi, pour éviter que pour pousser un peu le tanguy dehors, pour faire référence à un film un peu ancien. Et puis aussi des emplois clés dont on a vu pendant la crise sanitaire que quand on n'avait pas la caissière, quand on n'avait pas l'infirmière, quand on n'avait pas l'instit, eh ben ça marchait moins bien. Et que si jamais ils n'étaient pas là au moment où, c'est parce qu'ils habitaient beaucoup trop loin. Et c'est donc avec ces critères-là qu'on peut redonner une, comment dire, une envie,
une d'avoir dynamique,
une
oui.
dynamique. Mmh. Et encore une fois, je prouve que là-dessus, l'outil qui est Action Logement, par sa souplesse et sa force de frappe, parce que c'est aussi, c'est 3 milliards, c'est ça la cotisation, je crois,
la contribution
des entreprises, avec des politiques, en plus Action Logement est un acteur des politiques publiques oui. considérables. Mmh. Vous parliez des femmes en victimes de violences juste avant, ou des femmes qui étaient en situation d'extrême précarité.
De précarité, oui.
Vous avez, je crois, c'est 500 millions d'euros qui ont été mis sur l'hébergement d'urgence en la matière. Enfin, à chaque fois, je m'occupe beaucoup d'outre-mer. Là aussi, le plan d'investissement volontaire que vous avez mené est un plan qui permet de relancer le logement d'outre-mer. Donc, non, c'est encore une fois, je ne cacherai pas tout le soutien que j'ai pour vous.
Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir accepté. Quand j'ai su que Marie-Christine et Marine venaient, j'ai tout de suite pensé à vous. Et donc, voilà, j'ai trouvé que c'était un bon compromis de vous avoir également. Marie-Christine, on parlait de défis. Je vous propose qu'on fasse une courte pause et puis on revient sur ces défis à surmonter que connaît Action Logement. À tout de suite. L'économie en direct et ce matin je suis en compagnie d'invités qui ont en point commun, à part peut-être notre député Guillaume Vitet, de participer au salon Effervescence.
Ça sera corrigé.
Mais vous irez, je crois que Pierre Cuchely et Philippe Écran vont vous inviter, c'est sûr. Donc mes invités, c'est Marie-Christine Ogli, présidente du comité régional Action Logement Île-de-France, Marie Muchowika, directrice territoriale Val-d'Oise Action Logement Île-de-France, Guillaume Vuittet, donc député de la deuxième circonscription du Val-d'Oise,
et Alain Jelez, directeur technique AZ Énergie. Marie-Christine, vous nous avez donné des chiffres impressionnants d'investissement par Action Logement et vous nous disiez que vous aviez un vrai défi à surmonter. Donc, je vous laisse continuer sur ces défis.
Oui, ça, les défis sont vraiment là. Alors, il y a tout d'abord le manque de logement pour les jeunes, ce qui peut freiner assez souvent la voie de l'apprentissage. Il faut être à proximité de son lieu de travail et comme la recherche d'un premier emploi et de l'autonomie, quitter la famille, comme on l'évoquait. Laisser partir les tanguis.
Oui, oui.
Il y a aussi le manque de logement pour les salariés et les saisonniers, sans compter le coût du logement qui est parfois difficilement soutenable, notamment en Île-de-France. Alors, l'Île-de-France, c'est un territoire qui est d'une grande richesse et d'une grande complexité, mais avec effectivement de nombreux défis à relever. Pour cela, il faut vraiment tenir compte des spécificités qui font de cette région un territoire qui est clé pour l'emploi, mais où le logement s'impose définitivement comme le levier d'attractivité pour nos entreprises. Et, parce que le logement ne doit pas être un frein à l'emploi, Action Logement propose de nombreuses réponses concrètes, sans cesse renouvelées à ces problématiques. Un seul exemple. La foncière de transformation immobilière qui développe de nombreux projets en Île-de-France en transformant les locaux vacants en logements. Vous savez, le lien emploi-logement, c'est notre ADN chez Action Logement. Et je le cite toujours et je le répète, mais pas de logement sans emploi, mais pas d'emploi sans logement.
C'est ça, c'est la devise un petit peu hein, d'Action Logement. Donc, Action Logement, c'est combien de collaborateurs, Marie-Christine Ogli ?
Alors, c'est 20 000 collaborateurs qui doivent relever au quotidien des défis en logeant des familles, en les aidant à démarrer dans la vie, à acheter un bien immobilier, à financer les travaux, à faire face à une difficulté de logement et aussi à faire face aux urgences. On a mentionné tout à l'heure, par exemple, les femmes victimes de violences oui. qui doivent trouver immédiatement un logement. Eh bien, ça fait partie des actions que les collaborateurs font sur le terrain tous les jours.
C'est ça. Donc voilà, vous nous avez brossé un petit peu les grands traits d'Action Logement. On va rentrer plus en détail tout à l'heure avec Marie. Mais finalement, Monsieur le député Guillaume Vuittet a bien souligné l'importance d'Action Logement. Et puis... cette crainte, on a compris que Action Logement puisse disparaître un jour.
C'est très important d'être soutenu par nos députés. Effectivement, peut-être qu'on ne fait pas suffisamment passer les messages. On devrait vous rencontrer plus souvent pour vous expliquer à chaque négociation de plan quinquennaux. On se dit que ça pourrait être remis en cause parce que, effectivement, la collecte est importante hein, chaque année. C'est plusieurs milliards d'euros. Le patrimoine est extrêmement important et quels que soient les gouvernements, on a souvent un œil sur Action Logement en se disant qu'on pourrait peut-être utiliser cette collecte.
Cette manne pour autre chose, oui.
Je le rappelle parce que je trouve que ça a son importance. Au départ, c'était une contribution volontaire de chef d'entreprise et c'est devenu une contribution volontaire mais obligatoire. Donc on n'a plus le choix, mais les entreprises le font très volontiers parce qu'il est important de pouvoir loger les salariés.
Bien sûr. On a bien compris que pour avoir un emploi, il faut avoir un logement et inversement, quoi. La vérité est là. Merci Marie-Christine pour cet échange instructif et puis ce panorama très complet de Action Logement. Alors j'ai compris que finalement on se retrouverait pas au salon Effervescence parce que vous avez une autre obligation.
Oui, malheureusement, je serai en région et je ne pourrai pas être au salon Effervescence, que je regrette beaucoup.
Oui. Bon, ouais. Écoutez, en tout cas, moi j'ai été ravie de. Enfin, l'émission n'est pas terminée, mais je suis ravie de vous avoir à nos côtés ce matin pour évoquer ce sujet.
Sera très bien représenté.
Oui. Donc. Bien sûr. Donc, je vous propose une nouvelle pause et puis on se retrouve juste après.
J'aime tes vins de Bourgogne qui me racontent des histoires. Tes petites piquettes qui collent et sentent bon le terroir.
Je m'enroule dans ta manche, je rêve de tes tropiques. J'aime tellement tes dimanches, ta compagnie, tes criques. Chez toi on se sent libre, égal et fraternel. Et même quand tu m'enivres, je m'accroche à tes prunelles. Tout le 14 juillet, tu brilles de mille feux. On est tous aux aguets, les petits, les grands, les vieux. Chaque fois que je veux partir, voyager, voir du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. On peut faire le tour du monde, visiter Vienne ou Florence, aimer les brunes ou les blondes. On ne fait jamais le tour de France. On ne fait jamais le tour de France. J'aime tes petites places, Ricard et puis pétanque. M'asseoir à tes terrasses ou sirop à la menthe. T'as le goût de la fête, tes rêves parlent fort. T'as tellement de facettes et tellement de décors. Chez toi on ne s'ennuie jamais, t'as ton petit caractère. Quand on te marche sur les pieds, tu lèves le poing en l'air. Unis on est plus fort, même quand on se fait la guerre. On s'engage et alors on reste solidaire. Chaque fois que je veux partir, voyager, voir du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. On peut faire le tour du monde, visiter Vienne ou Florence, aimer les brunes ou les blondes. On ne fait jamais le tour de France. On ne fait jamais le tour de France. Sans chez soi, un petit bout de terre. C'est bien joli la Bretagne, et c'est bien bon le Finistère. Et quand l'Alsace te gagne, tu reviens pas en arrière. Chaque fois que je veux partir, voyager, voir du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. Jamais le tour de France. On ne fait jamais le tour de France.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio, une émission consacrée ce matin sous plusieurs angles au logement, avec à mes côtés Marie-Christine Ogli, présidente du comité régional Action Logement Île-de-France, Marie Muchowika, directrice territoriale Val d'Oise Action Logement Île-de-France, Guillaume Vuittet, député de la deuxième circonscription du Val d'Oise, en charge des questions liées au logement, et Alain Gelès, directeur technique de AZ Énergie. Alors pendant la pause, nous avons échangé, bien sûr, et Guillaume Vuittet, j'aimerais que vous nous rappeliez un petit peu ce que vous nous avez dit à propos de cet historique par rapport à Action Logement, qui fait que parfois, enfin, lors de négociations, Action Logement n'est pas sûr de survivre.
Alors,
en l'état, en tout cas.
En l'état, mais alors il y a une histoire en effet dans tout ça. Il fut un temps lointain où ce qui était à l'époque Action Logement n'avait pas l'efficacité qu'on lui connaît aujourd'hui. Parce qu'il y avait de ce qu'on appelle des collecteurs, c'est-à-dire des structures qui collectaient cette fameuse contribution des entreprises à l'effort de logement, et qui, bon, vivaient bien. Il fut un temps où, je crois que c'est Jean-Louis Borloo qui avait employé l'expression de dodu dormant,
ah oui,
qui était une image qui n'était pas forcément très très éloignée de la réalité. Donc, l'État a réagi, la structure a réagi, maintenant c'est une structure centralisée qui est très efficace, alors qui est sans doute à 2-3 efforts supplémentaires à faire, mais comme tout le monde. Enfin, je veux dire, il y a rien de particulier là-dessus, et une action locale qui est très efficace. Et c'est vrai que l'État, pour prendre ce terme générique, a toujours hésité entre deux pulsions, on va dire.
Deux choix.
La première orientation était de dire, et c'est souvent les ministères dits sociaux qui se préoccupent de cela, était de dire, vous avez des sous, parfois beaucoup de sous, donc on va vous demander de contribuer à des politiques publiques. Je vous ai dit la moitié, mais je crois que c'est quasiment la totalité des crédits de l'ANRU, de la rénovation urbaine, viennent d'Action Logement, par exemple. Alors que c'est une politique d'État au sens littéral du terme. On a cité les personnes victimes de violences intrafamiliales. On pourrait citer les problèmes d'apprentis. On pourrait citer les problèmes, encore une fois, en Outre-mer. Il y a beaucoup de bailleurs sociaux qui sont, en fait, avec Action Logement, qui est adossé à Action Logement. Donc, on va dire, s'il y a cette tendance de dire, on va vous faire contribuer aux politiques publiques. Parfois ça râle moins. Il y a l'action Cœur de Ville, par exemple, aussi, c'est fondamental. C'est-à-dire la rénovation des centres-bourgs et des centres anciens, ce qui est essentiel pour l'aménagement du territoire. Et puis, il y a une autre tendance qui est de dire, qui est celle plutôt du ministère des Finances, de dire, écoutez, le plus simple, c'est de refiscaliser tout ça, donc de faire rentrer cet argent dans le budget de l'État, parce que ça vous fera faire des économies, ça fera peut-être faire des économies d'entreprise, parce qu'on a supprimé la contribution. Je pense que c'est une erreur, à double titre, d'une part parce que je ne suis pas sûr que les entreprises veuillent avoir cette contribution, au moins, ça leur est utile pour accompagner leurs salariés, et puis parce que personne ne peut croire que tout ça restera pour le logement, c'est pas vrai.
C'est ça, oui.
En réalité,
il risque d'y avoir
commun,
de...
Bien et sûr. Puis au fur et à mesure, ce sera dilué. Mm-hmm. Donc moi, je préfère qu'on ait cet outil qui est encore une fois très opérationnel, qui est très efficace, et qu'on le préserve.
Et cependant, donc, si j'ai bien compris, lors de la dernière, négociation, vous avez craint à nouveau que
oui, c'est systématique. Même si
Monsieur Vité dit que c'est plus performant aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est devenu un outil très performant, donc on ne peut plus nous reprocher d'être dormant.
C'est ça, oui, c'est j'allais 15 dire 15-20 ans. Oui. Vous parliez de Monsieur Borloo, donc.
Le problème n'est pas là, mais c'est vrai qu'il y a un patrimoine immobilier qui est conséquent, il y a une collecte chaque année qui est aussi importante. Donc si tout ça rentrait dans le budget de l'État, mais le problème c'est que ce serait dilué et que ça ne serait pas refléché vers le logement, et notamment le logement des salariés des entreprises.
Je voudrais rajouter une chose.
Oui, je vous en prie, Monsieur Vité.
Encore une fois, s'adapte énormément aux réalités du terrain. Alors, mes chiffres datent un peu, mais je pense malheureusement que ça n'a pas dû changer. Quand on est sur l'agglomération de Cergy-Pontoise, moi je suis élu d'une partie de Cergy, d'Éragny, de Ville, et après je remonte l'Oise en passant par ma bonne ville de Méry-sur-Oise, on se rend compte que il y a des gens qui gagnent trop, c'est-à-dire par rapport au plafond de ressources des logements sociaux, donc ils ne peuvent pas avoir accès au logement social, mais qui pour autant ne sont pas dans les critères de solvabilité pour avoir accès à un logement privé à la location. On demande 3 ou 4 fois le loyer. Donc il y a une sorte de trappe sociale où il y a quand même près d'un quart des ménages. Ces gens-là, au bout d'un moment, quand ils veulent s'installer, leur seule ressource, c'est quoi ? Acheter sur Cergy, c'est un peu trop cher. Donc, du coup, ils vont acheter dans le Vexin, donc en campagne. C'est très joli, Vexin. J'adore le Vexin. Et ils ont une remarquable députée avec Émilie Chandler. Mais pour autant, ça veut dire qu'on va être à 40 km de son boulot, avec toutes les difficultés qui sont associées à ça, de transport, de gestion des services publics, etc., etc. Donc, le fait de pouvoir aller aussi vers le logement intermédiaire, le logement des plus démunis est fondamental. Évidemment, il faut loger tout le monde. Mais de pouvoir aller aussi vers le logement intermédiaire, je pense qu'encore une fois, les outils, enfin les structures comme Action Logement sont mieux équipées pour le faire.
C'est ça. Et en plus, on s'éloigne complètement du vœu pieux de la transition énergétique, puisque le fait de faire des kilomètres aller-retour,
ça marche si jamais on arrive à mettre en place un télétravail soit efficace et qui permette d'avoir moins de mouvements pendulaires. Mais ça ne se décrète pas. Et puis surtout, là, ce n'est pas une question d'être choisi, c'est que c'est quasiment subi en réalité.
Complètement. Merci Guillaume Vitet pour ces précisions. Marie Mchouika, je m'adresse à vous. Donc vous êtes la directrice territoriale Action Logement pour le Val d'Oise. Dites-nous pourquoi vous souhaitez participer à nouveau au Salon Effervescence, puisque nous nous étions rencontrés d'ailleurs l'année dernière.
On
avait fait connaissance.
Alors
L'une des principales valeurs d'Action Logement, c'est la proximité. La proximité avec tous ses clients, qu'ils soient salariés, entreprises, bailleurs ou partenaires. Et les salons sont une très belle opportunité pour le groupe de renforcer notre notoriété et également faire connaître les aides et services qui sont proposés aux salariés. Donc, il y a un an, nous avons participé au salon Effervescence pour la première fois. Cet événement, il correspond en tout point aux actions qu'on développe sur le territoire. C'est la raison pour laquelle on renouvelle, bien entendu, notre participation au salon Effervescence. Donc, pourquoi on le fait aussi ? En fait, c'est une façon d'aller vers tous nos interlocuteurs et nos partenaires du territoire, mais aussi mobiliser nos clients pour qu'ils viennent plutôt vers nous et qu'ils viennent notamment pousser la porte de l'agence Action Logement qui est à Cergy-Pontoise, à quelques mètres du RER Cergy-Préfecture.
Parce que vous pensez précisément que pas assez de gens connaissent Action Logement ?
Je pense que nous avons une marge de progression, même si nous avons gagné en notoriété. Finalement, Action Logement, on parlait tout à l'heure de fusion d'organismes, d'anciens organismes. Finalement, la fusion n'est pas si ancienne que ça. Ça fait 5 ou 6 ans. Donc, on a encore du travail. Les choses se sont simplifiées. Ça a amélioré notre visibilité. Mais il y a encore beaucoup de travail auprès de toutes les instances. Nous sommes prêts à rencontrer les partenaires politiques, territoriaux, institutionnels, en fait tout le monde, pour expliquer ce que nous faisons au quotidien. Et pardon.
Oui, je voudrais m'adresser à Monsieur Alain Jeunès, qu'on n'a pas entendu encore, Alain, parce que vous connaissiez vous Action Logement.
Oui, je connais très bien.
Et dans votre activité, vous intervenez auprès de cette
activité actuelle, non, mais précédemment, oui. J'avais beaucoup travaillé avec Action Logement, qui était un service remarquable.
Oui.
Mais les fonds étaient limités.
Ah oui.
Donc, on ne pouvait pas répondre aux besoins de tous nos clients.
C'est ça, vous n'aviez pas la marge de manœuvre que vous auriez souhaité.
C'est bien ça. Oui.
Marie Mushoïka, vous aviez eu beaucoup de contacts l'année dernière au Salon Effervescence.
Oh oui, je ne me rappelle pas du nombre exact, mais en effet, les contacts étaient très fructueux. Nous avons pu développer des actions.
D'accord, ça c'est qui se sont plus transformées.
Oui, des réunions d'information, des forums, ce genre de choses, de nouveau pour informer de toutes les aides qui existent. À cette occasion, je vais peut-être revenir ce qu'a évoqué tout à l'heure Marie-Christine en deuxième point sur les aides qui sont attribués. Je trouve qu'on peut les classer de deux façons.
Oui.
On peut les catégoriser de deux façons. D'une part, il y a des aides qui sont universelles,
oui,
c'est-à-dire qui sont dédiées aux salariés de toutes les entreprises du secteur privé. Et là, il y a 3 dispositifs derrière. On a le dispositif VISAL, qui est la garantie portée par Action Logement pour les loyers et les charges. C'est une garantie gratuite aussi bien pour le locataire que le propriétaire. Nous avons le dispositif Locapass, qui est une facilité, on va dire, financière. Nous faisons l'avance au locataire qui doit verser une caution à l'entrée dans les lieux. Et puis, l'un de nos publics qui retient notre attention, ce sont les jeunes. Il y a une aide qui s'appelle le Mobili Jeune. Là aussi, c'est une aide financière qui a vocation à diminuer la charge logement lorsque le jeune déménage et prend un logement pour se rapprocher de son emploi.
Il y a un dispositif qui a été longtemps connu aussi, c'était le fameux 1% qui permettait d'accéder à, quand on était des jeunes, primo-accédants,
oui,
on pouvait avoir accès à ça. C'est Action Logement qui l'avait.
C'est tout à fait. Alors, c'est encore le cas, le nom de 1%.
Oui.
Alors, oui, mais donc, du coup, je vais développer la deuxième catégorie.
Excusez-moi.
Vous avez très justement dit, effectivement, et il m'arrive encore de le dire, le 1%. Alors, pourquoi on l'appelait le 1%? Parce que, initialement, les entreprises versaient 1% de leur masse salariale.
D'accord.
Progressivement, effectivement cette cotisation volontaire obligatoire, comme dirait Marie-Christine, elle a diminué jusqu'à descendre jusqu'à 0,45 de la masse salariale. Mmh. Sauf que du coup, l'appeler le 0,45,
oui, c'était pas
forcément très porteur en effet. Donc en tous les cas, voilà, c'est la raison pour laquelle on appelait le dispositif le 1%, c'est parce que les entreprises versaient 1% de leur masse salariale. Et pour revenir donc à la question que vous posez, en fait, dans la deuxième catégorie des aides, il y a donc, enfin, ceux qui peuvent en bénéficier, ce sont donc des salariés des entreprises du secteur privé, mais à partir d'un effectif de 10 collaborateurs.
D'accord.
Hein, mmh. C'est tout simplement historique, mmh, parce que les entreprises, celles qui ont versé le 1%, versaient donc à partir du seuil des 10 salariés. Donc nous avons conservé ce seuil historiquement parlant. Et là, vous avez plusieurs aides. Donc, un salarié qui cherche une location à loyer modéré, eh bien, il peut, par notre intermédiaire, rechercher un logement social, un logement temporaire pour quelques semaines, quelques mois, et un logement intermédiaire. Donc pour tous ceux qui, au regard de leurs ressources, ne peuvent plus bénéficier du logement social, mais en même temps, soit ils ne peuvent pas, soit ils ne souhaitent pas se tourner vers le privé.
C'est ça.
Mais il y a également les salariés qui ont des projets d'accession, et c'est très bien. Mmh. Donc dans ce cadre-là, les salariés peuvent faire appel à notre conseil en financement, qui les aide à optimiser donc le financement de leur projet. Et il y a également le prêt accession d'Action Logement, qui est un prêt coup de pouce qui vient s'adosser au prêt principal de la banque et qui fait donc diminuer la mensualité du crédit et de fait diminuer l'endettement.
Bien sûr, bien sûr.
Puis il y a
C'est très précis quoi en fait dans oui. tout ce que vous décrivez.
En effet, donc ensuite il y a le financement des travaux pour les salariés qui sont propriétaires de leur résidence oui. principale. Mmh. Et puis on a des aides qui sont dédiées pour des salariés en effet en difficulté. Là on en a parlé par rapport à tout ce qu'on vient déjà de dire. Je voulais juste rappeler que donc c'est dédié aux personnes qui rencontrent des difficultés. Conjoncturelle,
oui, on en a parlé, financière, de santé ou familiale.
Tout à fait, et que nous pouvons aider aussi bien les locataires que les propriétaires, parce que malheureusement, personne n'est à l'abri d'une tuile. Mmh. Voilà.
Merci Marie Michoïka. On n'a pas terminé avec vous, mais je propose qu'on fasse une nouvelle pause et on se retrouve juste après.
Blacked out
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin, mes invités ont en point, ont le point commun de participer au salon Effervescence, mais aussi de s'occuper, enfin de d'œuvrer dans le domaine du logement. Marie Muchowicka, donc vous nous expliquiez, vous nous avez décliné toutes les aides possibles selon la situation de famille. Vous vouliez aussi nous parler du Made in 95, si cher à Pierre Kuchli, labellisation des entreprises du Val d'Oise.
Oui, en effet, Made in 95, alors beaucoup connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une labellisation des entreprises du Val d'Oise, labellisation qui est faite par la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise et qui a une très belle vocation, c'est de faire des circuits courts et encourager finalement des partenariats territoriaux. Et ça tombe très bien parce que ça fait le lien avec le groupe Action Logement qui est donc engagé aussi dans une démarche RSE. Donc on est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est totalement en phase avec avec notre démarche.
Et IDFM Radio est labellisé Made in 95. Et donc oui, voilà, nous le disons haut et fort. Un mot aussi à propos des JO, Marie.
Alors oui, comment passer à côté ? On
oui,
ne peut pas.
C'est impossible.
Donc, c'est ça. Alors, comment Action Logement peut aider dans ce cadre-là ? Alors, je vais citer un exemple. C'est celui donc de relogement temporaire des salariés qui travaillent sur les sites sur lesquels vont se passer les Jeux Olympiques.
Très voilà. Bien.
Et puis on a un autre projet dans les tuyaux, c'est celui de promouvoir un nouveau dispositif qui est le bail réel solidaire. C'est un dispositif d'accession sociale qui permet à l'acheteur de financer, de payer quasiment que le bâti et pas le foncier, ce qui diminue très fortement le coût finalement de l'achat.
Mais après, ça ne pose pas de problème en termes de quand il faut revendre le bien ou c'est peut-être.
Mais merci pour cette question parce que ça me laisse l'occasion de dire que comme l'ensemble des aides. Alors oui, mais comme l'ensemble des aides d'Action Logement, encore que le BRS n'est pas un produit pur d'Action Logement, mais en effet, l'ensemble des aides d'Action Logement, il y a des conditions d'éligibilité. Et d'ailleurs, sur notre site, il est possible, et j'invite tout le monde à le faire, toutes les personnes intéressées à le faire, il y a des simulateurs pour voir si on est éligible à une aide ou pas. Et c'est quand même pas mal de le faire.
De le faire, c'est, très bien. Oui, Guillaume Vitet.
Parce que l'histoire du BRS est fondamentale pour la suite d'une politique du logement dans ce pays. Dans les zones tendues, et évidemment, on est en particulier concerné quand on est en Île-de-France, dans quasiment l'ensemble de l'Île-de-France, dans les zones tendues, le problème principal, c'est le foncier. C'est-à-dire, où est-ce qu'on peut construire quand le foncier est public, en plus, on a toujours à savoir combien ça coûte à la fin. Et le fait de faire ce qu'on appelle des opérations de démembrement, on dissocie le foncier du bâti, ça permet vous l'avez tout à fait raison, c'est beaucoup moins cher. On a un coût de foncier
qui
parfois peut être jusqu'à 40% du coût total du bâti quand on est dans les zones, dans les cœurs de ville. Donc on est quand même avec un enjeu fondamental. Non, il y a une façon non seulement de s'assurer de la transmission du bâti sans que le foncier soit touché, donc on peut revendre. Et même, alors je crois que c'est à Lille que les premiers BRS ont été mis en œuvre, je crois, de mémoire. Ça permet aussi d'éviter qu'il y ait une sorte d'opportunisme du propriétaire qui revendrait dès que ça va un peu mieux et qui ferait une plus-value trop forte, d'encadrer aussi les prix de revente pour éviter que l'argent public ou la propriété publique soit détourné de son objet. Donc c'est un outil qui va, à mon avis, se développer de plus en plus et qui est fondamental pour la suite des événements.
Merci pour cette précision, Monsieur Vuittet. Alors, pour vous contacter, Marie, on peut bien sûr aller au salon, au salon Effervescence.
Bien sûr, vous serez les bienvenus sur le stand le 19 mars. Mais évidemment également à notre agence, qui est à Cergy-Pontoise, comme je le disais tout à l'heure. Et puis le site actionlogement.fr, là l'accès est 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et puis une particularité aussi en entreprise. Les entreprises qui organisent au sein de leurs locaux des forums sociaux, des permanences, des réunions d'information, nous y participons et nous pouvons renseigner en fait les salariés sur leur lieu de travail.
Très bien, ben merci pour toutes ces précisions Marie, et puis je sais aussi qu'on va se retrouver toutes les deux sur le salon Effervescence, avec plaisir également. Je propose de revenir vers vous monsieur Guillaume Vuittet, parce que on va pas refaire une pause, on va aller dans la continuité de vos informations. Donc vous êtes membre de la commission député de la deuxième circonscription, vous êtes membre de la commission des affaires économiques, comme je l'ai dit au début, dont l'accélération et simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement. Avant d'aborder un de vos derniers amendements que j'ai retrouvé en lien avec Action Logement, est-ce qu'on peut faire un état des lieux de l'offre qui avait été faite en 2021 de produire 250 000 logements sociaux en 2 ans? Et pour laquelle, justement, Action Logement avait signé son rôle de financeur majeur.
Alors, là, je n'ai pas les chiffres complètement actualisés, mais oui. De fait, on est en panne. Ah. On est en panne à bien des égards. Je crois qu'on est, cette année, on va produire 80 000, mais je fais sous votre contrôle, hein, c'est ce que j'ai en tête. Donc, on est assez loin de l'objectif. Il y a des causes multiples. Et il est aussi stupide de penser qu'il y a un mot magique qui peut tout résoudre que de dire qu'il y a un mot satanique qui viendrait tout résumer dans les difficultés, parce que c'est pas le cas. Dans la multiplicité des difficultés, il y a évidemment des taux d'intérêt qui sont plus importants qu'avant et qui concernent tout le monde, hein, y compris les bailleurs sociaux quand ils veulent investir. Il y a le renchérissement du coût de la construction. Je crois qu'on était à près de 47% d'augmentation des coûts de construction, ce qui a des matériaux simplement. Donc évidemment ça vient là-dessus, et puis donc la pénurie foncière, on est revenu là-dessus. Une vraie réticence des acteurs locaux à construire, qui se manifeste de deux façons. C'est-à-dire que les gens sont rarement ravis de voir arriver de nouveaux voisins à côté de chez eux.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Il faut qu'on réécrive une histoire autour de ça. Et parfois, des collectivités qui disent « Je sais bien que dans le plan local d'urbanisme, vous avez le droit de faire un R+3, vous allez faire un R+2 parce que les voisins ne veulent pas plus haut que ça. Donc, du coup, c'est forcément l'équilibre économique du système et s'en trouve tout à fait perturbé. En particulier quand on est sur des projets de logements sociaux dont l'équilibre marche aussi parce qu'il y a des subventions, parce qu'il est planifié et à très long terme. Donc on a des enjeux pour très forts en la matière. Il y a une ingénierie qui devrait être un peu développée, d'une part, parce que, en effet, dans les coûts, mais je pense qu'on le verra avec monsieur, dans les coûts du logement, c'est pas que le loyer, c'est aussi souvent les loyers plus les charges, et on voit une explosion des charges, en particulier pour les raisons du coût de l'énergie, et que donc la rénovation énergétique va être un enjeu fort. Il y a ça. Et puis, on a aussi un enjeu, d'aménagement du territoire, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des logements dans de nombreuses communes qui parfois en sont un peu dépourvues, parfois ne le peuvent pas d'ailleurs. Pour ça, je trouve que ce qu'a dit le Premier ministre en matière de réforme du 55, l'article 55 de la loi SRU pour dire tout l'ensemble de la chose est un effort qui est une position qui est juste. Je pense que c'est bien que les maires puissent être les premiers attributeurs. Même si c'est bien évidemment avec les critères normaux de revenus, etc., je pense qu'il est important d'intégrer le logement intermédiaire parce qu'on en a besoin. Vous savez, encore une fois, mes chiffres datent un peu, mais on reste 2 fois plus longtemps en moyenne dans un logement social que dans un logement privé. Pourquoi ? Sans doute parce que le logement privé peut coûter cher. Oui. Mais aussi parce que quand on est dans un logement social, on n'ose pas en partir. On se dit qu'on prend un risque trop fort et qu'on va y rester parce qu'il coûte pas cher, même si on a une situation
qui s'améliore.
Et d'ailleurs, parfois, il va y avoir le paiement de ce qu'on appelle un surloyer. C'est-à-dire qu'on va payer un peu plus cher parce qu'on a des revenus qui se sont améliorés, mais on n'ose pas en bouger parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Et donc là, je pense qu'il y a de l'ingénierie à mettre en place pour pouvoir fluidifier cette mécanique, pouvoir faire des échanges plus fréquents. L'exemple typique, c'est le couple de personnes un peu âgées qui a eu 3 enfants, donc ils ont eu un 5 pièces il y a 20 ans ou 30 ans. Et puis maintenant, les enfants sont partis parce qu'ils sont devenus grands, ça, heureusement, et qui n'osent pas quitter leurs 5 pièces, même s'il y a 2 pièces, ils ne servent plus à rien, parce que on leur offre pas quelque chose d'une qualité supérieure à côté, ou quand on leur offre, c'est plus cher. C'est débile. On a des surfaces inutilisées d'un côté avec des familles qui attendent, et l'autre, des gens qui ne demanderaient qu'à avoir des solutions, soit de logement intermédiaire si leurs revenus ont évolué, soit de logements qui sont plus petits, plus compacts, mieux aménagés, avec des ascenseurs quand parfois il n'y en a pas. Hein. Dans ma commune, je vois bien, il y a des logements HLM où CR plus 4 sans ascenseur, et ben oui, les gens qui sont là-dedans, ça commence à être plus dur. Donc voilà, il y a tout ça à mettre en œuvre derrière pour fluidifier et faire en sorte qu'on puisse rétablir ce qu'on appelle le parcours résidentiel, on appelait ça quand même comme ça, et je trouve que c'est pas une mauvaise expression.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on comprend que vous êtes un véritable expert dans le domaine, et ça, c'est certainement oui, en effet. Alors moi, je vous propose de revenir sur un amendement, mais après, vous-même, si vous voulez en évoquer d'autres, j'ai retrouvé cet amendement numéro 191 qui a reçu un avis favorable et qui vise à élargir le champ d'intervention de l'association Foncière Logement, une filiale justement du groupe Action Logement.
Alors... Donc, pour redonner, mais très rapidement, le contexte, donc j'ai fait cette escapade à la commission des affaires économiques pour être rapporteur d'un projet de loi qui était déposé par le gouvernement sur la rénovation des copropriétés, enfin sur l'accompagnement des copropriétés dégradées et sur la lutte contre le logement indigne.
Oui.
Pour donner un peu d'histoire, il y a de ça 4 ans, j'avais 5 ans d'ailleurs, maintenant le temps passe, j'avais fait un rapport pour le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, sur la lutte contre le logement indigne, qui avait comme objectif de simplifier considérablement les procédures. À l'époque, il y avait 13 policiers administratifs, 21 procédures. On a réussi à réduire tout ça à 2 policiers administratifs et 4 procédures, ce qui permet d'avoir une action beaucoup plus forte sur les logements indignes. Et avec le Olivier Klein avait demandé à Mathieu Notin, maire de Saint-Denis, et à Michel Lutz, qui est maire de Colmar, Colmar ou Mulhouse, j'ai un doute, elle m'excusera,
oui. C'est
nous autant, pour savoir comment faire rendre les choses plus simples. On avait simplifié administrativement, mais comment rendre les choses plus simples de façon opérationnelle.
Oui.
Et en particulier, comment arriver en amont, de faire en sorte de pouvoir intervenir en amont des difficultés. Parce que le constat qu'on peut faire, c'est que très souvent, quand on intervient sur le logement indigne ou le logement dégradé, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'il va falloir brusquement démolir et reconstruire, ce qui coûte un fric fou, ce qui, au niveau écologique, est totalement absurde, et ce qui est extrêmement traumatisant pour les personnes qui habitent ces endroits. On a tendance à considérer que dans le logement indigne, il n'y a que des gens en très grande fragilité, etc. La moitié des occupants des logements indignes sont des propriétaires occupants. Ce sont des personnes qui n'ont pas les sous pour faire leur rénovation, ou qui ont un peu décroché à monnaie, ou qui sont en grande fragilité tout en étant propriétaires, ou qui sont très âgés parfois aussi. Enfin bref, plein de situations très différentes. Ou alors des indivisions successorales qui n'en finissent plus, enfin ça c'est une partie des principes. Donc l'objectif de cette loi est de faire en sorte de pouvoir arriver plus tôt, y compris parfois d'exproprier des personnes qui sont plus en mesure d'entretenir ou les marchands de sommeil, mais avant que le bâtiment soit dégradé, d'aider les syndics et les copropriétés à avoir ce qu'on appelle des emprunts collectifs pour pouvoir mener à bien les rénovations sans mettre le couteau sous la gorge de tout le monde. Et donc là-dedans, évidemment, on a fait en sorte que la Foncière Logement, qui est un outil d'achat, alors je crois que la Foncière Logement sous votre contrôle, c'était un outil qui permettait de construire du logement plutôt pour les riches dans les endroits qui étaient en rénovation urbaine, et construire le logement social plutôt dans les secteurs en tension, si je me souviens bien. C'était ça la vocation initiale du... Ça peut être un peu vite résumé, mais vous me corrigerez derrière. Mais donc Action Logement, la Foncière Logement est un outil qui permet d'intervenir dans le logement privé, de racheter et de porter des lots, des propriétés. Et donc il était important d'élargir, parce que c'est, encore une fois, c'est un acteur majeur. Hein. C'est là aussi.
C'est ça.
Il faut des sous pour faire tout ça, hein, quand même. Hein.
Et donc ça important. Va permettre aujourd'hui d'agir d'une façon plus...
Et ça protège, je vais vous dire, parce qu'il y a eu de nombreux débats, et j'avais fait une proposition de loi sur le logement indigne, où je parlais de contrôle technique du logement, ce qui avait créé beaucoup d'émotions à l'époque. Mais je le fais avec beaucoup de douceur qu'à l'époque, parce que je ne veux pas réveiller cette polémique, mais... À un moment donné, il faut faire en
sorte... Nous en avions parlé en septembre, d'ailleurs, quand vous êtes venu.
Mais il faut faire en sorte que les gens aient des garanties, quand ils rentrent dans un logement, garantie de qualité, et qu'il y ait un document qui leur donne cette garantie. Mais dans l'autre sens, il faut aussi que les propriétaires puissent se protéger en disant, voyez, j'ai bien respecté toutes vos obligations, ne venez pas me chercher des poux dans la tête, comme on dit un peu vulgairement.
Oui.
Et il faut aussi que les propriétaires qui sont propriétaires puissent se protéger d'autres propriétaires qui parfois sont beaucoup moins sympathiques. Très souvent dans les processus de logement indigne, c'est d'abord quelqu'un qui a acheté un appartement qui laisse, qui bloque la copropriété sur les votes, qui empêche l'entretien, qui laisse se dégrader l'immeuble, non seulement son appartement ou son lot, mais les lots des autres, de façon à ce que les gens les plus riches partent et de façon à pouvoir installer, racheter à vil prix et installer des personnes en grande fragilité qui ne peuvent pas contester. Donc, avec les outils que nous mettons en œuvre et avec l'aide de la foncière logement, on va pouvoir faire en sorte que les copropriétaires vertueux puissent imposer les travaux, puissent les mener, puissent être aidés et puissent être accompagnés dans cette rénovation.
Merci monsieur Guillaume Vitet, député de la deuxième circonscription, pardon. Y a-t-il une question à laquelle vous souhaiteriez répondre, enfin en tout cas un sujet que vous aimeriez aborder et dont nous n'avons pas parlé?
On parle de transformation de bureaux en logement.
Oui.
Et on parle de densification dans les annonces du Premier ministre. Je pense qu'il faut en effet qu'on fasse en sorte que on puisse faire en sorte de reconquérir les cœurs de ville. Et très souvent, ça peut être par l'utilisation, le reformatage d'une partie du tissu urbain dans ces cœurs de ville, et parfois par une forme de densification qui n'est pas un gros mot. Ça permet aussi à des jeunes couples d'arriver dans et de revivifier les cœurs de ville. Et dans la transformation de bureaux en logement, moi, je préfère la transformation, utiliser le terme de locaux d'activité. Parce qu'en réalité, moi, on me l'avait dit d'ailleurs, la loi Elan, et je découvrais ce sujet, c'est que beaucoup des zones commerciales qui environnent nos villes, maintenant, sont touchées de plein fouet par le développement du e-commerce, qui remet en cause le modèle économique des grandes boîtes à chaussures, comme on les appelait, qu'on remplissait d'alvéoles. Il y en a qui tiennent très bien, heureusement. Il y a aussi une action dynamique des maires, je pense en particulier à Erani avec Art de Vivre, où la mairie a vraiment accompagné le fait que les cellules vides puissent être remplies. Mais il y a des fois où je me dis que dans une période où on veut éviter d'artificialiser davantage pour pas gâcher du territoire, et ben peut-être qu'on devrait se réinvestir davantage sur ces zones commerciales. Les Romains construisaient les villes autour des marchés. Peut-être qu'il faut se souvenir de ça.
Et donc, vous allez œuvrer aussi dans ce sens?
Toujours.
Toujours. Merci beaucoup, monsieur Guillaume Vitet, député de la deuxième circonscription. Merci pour votre énergie à défendre, on peut le dire, les personnes fragiles et vulnérables. Hein. Ça reste vraiment un de vos cœurs d'action. On fait une nouvelle pause avant de donner la parole à mon quatrième invité. On se retrouve juste après.
La vie coupe mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable, que mes forces me quittent, que je me cache sous la table, que mes heures se délitent, il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle, le piment, tu es le sucre, le miel, je suis l'enfant, tu es la cannelle, le piment, émerveillé, je suis l'enfant, mi cielo, mi vida, mi amor, mi cariño, mi pichoncito, mi cielo, mi vida, mi amor, mi pichoncito. Quand je m'ennuie, que les jours perdent leur saveur, quand la vie fuit, qu'il ne reste que la torpeur, quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige, il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Mi cielo. esa mi gasolina, tu piel, mi calma. Car tu es le sel, la cannelle, le piment, tu es le sucre, le miel, je suis l'enfant. Tú tienes el poder de escoger tu destino, el poder de escribir tu destino. Será tu imagen más suave que el algodón, más poderoso que el león. No seas sabio ni obediente, como a menudo te pide.
Salon Effervescence, accès au logement et transition énergétique sont les thèmes de l'économie en direct sur IDFM Radio, où je suis toujours en compagnie de Marie-Christine Ogli, présidente du comité régional Action Logement Île-de-France, Marie Muchowika, directrice territoriale Val-d'Oise Action Logement Île-de-France, Guillaume Vuittet, député de la deuxième circonscription du Val-d'Oise, en charge des questions liées au logement. Certainement visiteur du salon Effervescence, je le redis, et Alain Gelès, directeur technique AZ Énergie, filiale du groupe AZ Holding, un acteur de référence dans le secteur énergétique. Ainsi, la boucle sera-t-elle bouclée, puisqu'il est forcément question de transition énergétique pour les logements. Alain Gelès, je vous laisse présenter AZ Énergie.
Oui, alors AZ Énergie est composé et surtout fondé par des passionnés,
oui,
en énergie renouvelable, particulièrement moi-même qui est passionné en IRVE.
D'accord, la mobilité, oui, on électrique. Y reviendra sur l'IRVE.
Voilà.
Oui.
La création d'AZ Énergie, ce n'est pas uniquement pour dire on va faire comme les autres, mais c'est d'apporter une vraie contribution, surtout dans le domaine RSE.
C'est ça. Et donc, les thèmes que vous souhaitez aborder, c'est, je sais que vous êtes très investi au niveau de l'accessibilité des bornes aux personnes PMR, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite.
Oui, ces personnes-là sont souvent oubliées dans tous les domaines d'ailleurs, mais y compris la rénovation énergétique, on n'en parle jamais assez, presque pas d'ailleurs. Et d'autant plus que dans mon domaine, l'accès aux bornes est très compliqué pour des personnes non PMR, mais alors pour les PMR c'est encore plus compliqué. Mmh. Il n'y a pas vraiment de législation proprement dite, donc on laisse faire un peu tout et n'importe quoi, ce qu'on veut pour l'installation de ces bornes.
On va peut-être,
c'est mon combat,
poser la question à monsieur Vuittet, voilà. Justement,
c'est mon combat de demander aux législateurs d'évoquer cette question, et surtout dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'une fois que tout le parc français sera borné, ça sera difficile de faire marche arrière,
de revenir en arrière. Guillaume Vuittet, vous voulez intervenir?
Je prends le point, parce que je vous savez, c'est ça, pour ça qu'il faut toujours être sur le territoire.
Oui.
Parce que c'est, d'une part, on se met, comme on dit, à portée de gifle.
Oui.
Ça permet aux gens de râler, et c'est important.
On n'osera pas.
Non, mais je vous connais assez pour savoir que. Mais je plaisante pas en disant ça. Je pense que c'est important d'être à pouvoir se rendre compte des endroits. Soit on a loupé la cible, encore une fois, soit on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et typiquement, ça, j'y ai pas pensé. Je suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais c'est typiquement le genre de choses où il faut saisir son député ou sa députée pour pouvoir faire remonter les infos. Et alors j'avais tendance à penser que c'était obligatoire et quasi intuitif, mais je découvre que non, donc je prends le point, comme on dit.
Très bien, merci en tout cas de vous y intéresser. Donc Alain Gelès, vous avez aussi une écoute pour ce problème. Donc vous vouliez nous parler aussi de l'IRVE. Alors l'IRVE, c'est l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, bornes de recharge, toujours avec l'accessibilité aux personnes PMR. C'est quoi IRVE exactement?
Alors l'IRVE, comme vous l'avez bien évoqué, l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques. C'est-à-dire le moyen de se recharger, que ce soit chez soi, en entreprise ou sur voie publique. Mais là, j'aimerais surtout parler d'entreprise et chez soi. Dans le cadre de la rénovation énergétique, on n'y a toujours pas incorporé cette phase de borne de recharge chez les particuliers. parce qu'ils doivent aussi, on a la chance d'avoir un président de la République qui prône le véhicule électrique pour tous, mais il a oublié la borne pour tous.
Donc oui, mais alors après c'est quand même un travail de titan, donc ça va se faire petit à petit.
Alors petit à petit, je pense qu'on devait les moyens existent, les moyens technologiques, le savoir-faire, les entreprises électriciens certifiées savent le faire. Sauf que le problème, ce n'est pas le savoir-faire ni le comment faire, mais c'est surtout qui paye.
Oui. Voilà. Oui, on en revient toujours au même problème. Oui, et évidemment, ça peut pas non plus l'État ne peut pas non plus.
Les subventions existaient, comme le programme Advenir, mais qui était très limité. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'aide sur le programme Advenir. Seuls les plus riches, comme je ne veux pas citer des entreprises, mais peuvent avoir accès, puisque les règles ont été tellement strictes qu'il faut débourser plusieurs millions pour avoir accès à ces aides.
Oui.
Donc, autrement dit, le particulier n'y a plus droit.
Et alors, comment agit dans ce cas-là AZ Énergie ? Comment intervenez-vous ?
Alors, nous, on intervient déjà en prenant le Made in France, puisqu'on travaille aussi avec des fabricants, on privilégie le Made in France. On est en plein dans le côté RSE. On va aussi chercher des comités d'entreprise parce que souvent on va leur demander quelles sont leurs actions RSE, est-ce que vous avez pensé à la mobilité de vos salariés, mais surtout des entreprises à multisites quand on a affaire aux flottes d'entreprises. Nous, ce qu'on a mis en place grâce à notre système de supervision et nos ingénieurs, que peut-être ils m'écoutent, voilà, c'est l'interopérabilité en entreprise et pas seulement en voie publique. C'est pour se recharger moins cher. Je prends l'exemple d'un commercial qui se déplace de Paris à Bordeaux, mais qu'il y a plusieurs filiales dans la même entreprise. Ils peuvent être filiales ou même partenaires. Ils peuvent se recharger dans ces groupes-là pour éviter de payer plus cher sur autoroute et surtout de faire tourner donc s'échanger les énergies, voilà.
Oui, c'est un moyen de là aussi de garantir la transition énergétique si on va jusqu'au bout du raisonnement.
Voilà. Et ça, on sait le quantifier. On peut le quantifier en carbone économisé ou en arbre, mais seulement cette quantification, aujourd'hui il n'y a pas de législation. C'est un peu olé olé, et donc dans la RSE on est encore au balbutiement, on n'a pas encore de vrais critères législatifs pour dire c'est comme ça qu'on va quantifier cette économie. On peut s'octroyer des notes RSE un peu comme on veut.
Il me semble que c'est sérieux quand même.
Oui, mais pas dans mon
Pas dans ce domaine. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous vouliez nous annoncer une actualité, c'est-à-dire que le 22 mars, vous allez inaugurer une start-up locale valdoisienne, justement spécialisée en IRVE.
Oui. Alors, cette start-up, AZ Énergie, même si elle est neuve, mais elle est surtout composée d'experts, on n'est vraiment pas novices dans le métier. On souhaite surtout à l'occasion de cette journée de faire intervenir des experts en énergie renouvelable, en photovoltaïque, en IRVE, et aussi des membres de l'AVER qui participent à la rédaction des normes sur les bandes de recharge.
Et présentez-vous ?
À Gonesse.
Gonesse.
Alors c'est Gonesse, c'est dans le Val-d'Oise.
C'est pas dans votre secteur.
Je vous invite.
En tout cas, on relaiera cette information et vous allez pouvoir en parler vous au Salon Effervescence puisque vous serez exposant.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr,
c'est la première fois que vous êtes exposant au Salon Effervescence.
Au Salon Effervescence, oui, c'est la première fois. C'est une première.
Ouais. Donc, et qu'est-ce qui vous a convaincu d'y participer ?
Alors, j'ai déjà été en tant que visiteur.
Oui.
Alors, j'ai beaucoup aimé le concept du salon. C'est surtout de privilégier le Made in Val-d'Oise, le local. C'est surtout ce côté qui m'a donné envie plutôt que des grands foires où il y a tout et on ne sait pas à qui on a forcément affaire.
Oui.
Donc, plutôt travailler avec le voisin.
C'est ça, oui. C'est trouver des fournisseurs qui sont à portée de soi, alors que parfois on va chercher au bout de Paris d'autres sous-traitants éventuellement, alors qu'ils sont à portée.
Ouais. Il faut vraiment souligner la, enfin, saluer la démarche du Made in 95 qu'a lancé Pierre Cuchely là-dessus.
Oui,
parce
complètement.
Que c'est vraiment. C'est pas, ça fait combien de temps? 4 ans peut-être, je pense, 3-4 ans.
Le Made in 95, oui, ça doit faire à peu près ça. Oui.
Avec l'abnégation qu'on lui connaît, hein, c'est un type qui ne renonce jamais, je trouve qu'il a vraiment fait progresser.
Ah oui,
la
oui,
cause.
Il a.
Et vraiment, alors, il y a aussi Michel Aixef, le président de la chambre de l'artisanat.
Oui, de l'artisanat.
Des métiers de l'artisanat, qui est aussi très impliqué dans la promotion des produits locaux. Mais vraiment, là-dessus, on a la chance d'avoir deux acteurs, et sur le Made in 95, Pierre en particulier. Qui a lancé cette marque.
Absolument.
Et c'est très bien, il faut la soutenir.
Qu'on revendique haut et fort. Alain Gelès, un mot encore sur votre activité? Une question que je ne vous aurais pas posée.
Alors, notre activité, on est les petites mains qu'on va faire ce fameux travail acharné pour installer de l'IRVE dans les entreprises ou chez les particuliers. On rencontre toujours le même problème, c'est qu'on donne l'obligation aux entreprises d'aller vers la mobilité électrique, mais on leur donne pas les moyens fiscaux, on les aide pas. Je trouve que c'est la contrainte qu'on a souvent, c'est le problème de budget. Donc, on a la chance d'avoir un député ici présent, s'il peut porter ma voix.
Faudra me rappeler ça au moment du budget.
Alors, surtout
n'hésitez pas, parce que c'est évident, c'est des sujets importants. Moi, j'ai une voiture hybride, je la branche à la.
On a une autre problématique, c'est que on a plein d'opérateurs de mobilité sur le marché qui émettent chacun des cartes de recharge.
Ah, oui.
On se retrouve avec des multitudes de cartes de recharge.
Ça, c'est
très difficile à gérer. Nous, ce qu'on souhaite et ce qu'on veut que ça devienne vraiment une norme, c'est la carte bleue directement sur les bandes de recharge.
Oui, c'est ça, une carte universelle quelque part.
Exactement.
Ouais. Merci beaucoup Alain Gelès, et donc on se retrouvera aussi sur le salon Effervescence. Merci à vous, l'émission se termine, mais avant de nous quitter, j'ai l'habitude de donner la parole à mes invités pour un mot de conclusion. Donc Marie-Christine, peut-être un mot avant de nous quitter. Merci déjà d'être venue, je suis très touchée que vous soyez là.
Merci de m'avoir invitée, parce que parler d'Action Logement, comme on disait tout à l'heure, on tombe dedans et on n'en sort pas.
Oui.
Alors, je ne serai pas au salon Effervescence, mais je salue mon ami Pierre Cuchely qui sait très bien parler de ce salon, et d'ailleurs, il est en train de faire des petits dans d'autres territoires.
Oui, avec Philippe Écran, hein, qui est le fondateur du salon Effervescence.
Oui. Mais donc, lui communique beaucoup au sein de la chambre de commerce régionale, et on est normalement tous mobilisés. Bon, sauf que cette année, je ne pourrai pas y être. Mais c'est important qu'Action Logement soit présent, parce qu'Action Logement, c'est vraiment la relation au territoire, la relation aux salariés, c'est la relation aux entreprises, et c'est ce qui peut permettre aux gens parfois de sortir d'une passe difficile, et on doit être là pour les accompagner. Mais à tout moment, de toute façon, Action Logement apporte une solution aux salariés des entreprises.
Oui, on a bien compris que c'était la chaîne de transmission entre l'emploi et puis le logement.
Oui.
Merci à vous, merci. Marie Michaud-Wicca, un mot
alors,
de conclusion.
Que dire après Marie-Christine, j'aurais pas pu faire mieux, et je vais pas paraphraser, mais je vais dire merci. Merci de nous avoir conviés. Je suis ravie, bien entendu, de participer au salon Effervescence, et j'espère qu'il y en aura de nombreux d'autres.
Oui, je pense.
Voilà, et venez tous nous voir sur le stand d'Action Logement ou passez à notre agence.
Merci à vous, Marie. Marie Michaud-Wicca. Alain Gelès, un mot de conclusion.
Alors, pour le mot de conclusion, je voudrais rester sur mon combat pour les personnes PMR,
oui.
Ne pas les oublier surtout.
Très bien. Bah, écoutez, je pense que le message est bien passé. Merci à vous.
Alors, j'ai aussi une lettre destinée au président de la République.
Carrément.
Oui, carrément. Celle-ci va être signée par des acteurs importants, pas seulement dans l'IRVE, mais aussi de certains députés qui vont signer ma lettre, la Fédération française du bâtiment Val-d'Oise, des membres de l'ADEME. Cette lettre est destinée directement au président de la République, puisque c'est lui qui a promu le véhicule électrique pour tous. Mais comme je disais tout à l'heure, il a oublié la borne pour tous, mais il a surtout oublié les personnes PMR.
Très bien. Merci, monsieur Alain Jeulès. Votre message, je pense, aura été entendu. Guillaume Vuittet, je vous laisse le mot de la fin.
Alors, c'est toujours compliqué. Déjà, merci mille fois de m'avoir invité. C'était extrêmement agréable et c'est important pour moi, je pense, de pouvoir expliquer à quoi ça sert un député.
Oui, je crois que ça a été...
c'est peut-être intuitif pour tout le monde, mais pas tant que ça. Écoutez, si je dois revenir sur un point, c'est que je souhaite vraiment qu'on continue et qu'on maintienne un effort important et même qu'on le développe, pour tout dire, même dans ces périodes un peu, on rentre dans une période de vache maigre, dit-on, sur le plan budgétaire. Mmh. Mais il faut soutenir la rénovation des centres anciens et des cœurs de bourg. On ne résoudra pas une partie des problèmes que connaissent les villes si jamais on ne réenchante pas les villes moyennes, les villes rurales, si on ne soutient pas le périurbain et la ruralité. Et pour commencer, dans ce cas-là, il faut d'abord soutenir le réinvestissement, la rénovation, plus que le neuf d'ailleurs, la rénovation dans les cœurs de bourg, dans les cœurs de ville, dans les petites communes, faire en sorte que les commerces puissent revenir, retrouver des fonctionnalités de cette nature-là. Et donc, voilà, c'est un projet auquel moi j'essaierai de contribuer en tout cas.
Je crois que c'est aussi un projet de l'État qui a beaucoup investi.
Je suis très heureux d'être dans cette majorité en la matière.
Absolument. Merci infiniment d'avoir été. Merci Guillaume Vuittet d'avoir été notre invité. Merci à vous tous d'avoir été les invités en direct de l'économie en direct. Merci pour ce partage d'expérience. Et puis, je vous souhaite à chacune d'avoir le meilleur pour les semaines à venir. Donc voilà, l'économie en direct est terminée. Son intégralité sera disponible sur le podcast. Alors peut-être pas aujourd'hui parce qu'on a des petits soucis avec le site internet, mais dès que nos problèmes seront réglés, le podcast sera mis en ligne. Merci à vous tous qui nous écoutez. Merci Christophe pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vendredi, rendez-vous à 9h30 pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Je recevrai le sénateur Daniel Fargeau, le bâtonnier du Val d'Oise Stéphane Alémaux. Alors d'ici là, belle journée et bonne semaine. IDFM Radio, le média valdoisien.